Et allez, on remet le couvert. Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Bienvenue dans les matinales de Barthas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30. Des éditos,
des reportages, des interviews
et des chroniques.
Et quelquefois des rediffs.
Ouais.
Les matinales de Radio Barthas
sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui. Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Barthas, bienvenue sur le 107 ou sur radiobarthas.net. Nous sommes le mercredi 27 mars et il est 8h30 au programme de cette matinale. Nous sommes en direct avec Flore Théron. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, Madame le maire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme chaque année, c'est l'occasion avec vous de parler de Florac, de l'année écoulée, des projets pour cette année. Et pour m'accompagner, c'est toujours un plaisir. François, bonjour.
Salut, Ben.
Correspondant Midi Libre et bénévole dans notre chère radio Barthas.
Voilà, il est un peu plus que 8h30.
Il est, eh ben oui, c'est l'habitude, ça m'arrive. 8h43 sur Barthas, la preuve, on est en direct. Eh bien, on y va direct, hein. Nous sommes donc avec vous. Il vous reste 2 ans de mandat, Flore, avec une première année qui a été assez bizarre, hein, en 2020, c'est moins qu'on puisse dire. Ça fait 4 ans que vous êtes élu. Quel est le bilan, en quelques mots, que vous tirez de ces 4 ans?
C'est un bilan, je crois, certains à une époque disaient globalement positif. Vous voyez, les plus jeunes, peut-être ils comprennent pas, mais bon. Je pense que oui, c'est le bilan d'une équipe d'abord. C'est pas le bilan d'une seule personne, c'est le bilan d'une équipe. C'est le bilan d'une équipe qui avait un projet qui était annoncé, qui a pu en grande partie être développé. Et alors, bien sûr, ce qu'on voit le plus, ce sont les investissements, c'est-à-dire ce qui a été réalisé. Nous avons achevé ce qui avait été initié par l'équipe précédente, l'île Oudid. Nous avons également mis en œuvre le projet qui avait été initié aussi par l'équipe précédente, mais que c'est nous qui l'avons réalisé, c'est-à-dire les abords de l'Office du tourisme et de la maison du parc. Donc ça a été aussi un gros chantier. On a fait un pump track pour les jeunes. Et on a essayé aussi de travailler sur eh bien, une vision sociale de notre commune avec les moyens qui sont les nôtres, en développant les actions au niveau du CCAS, notamment. Ça, je pense que c'est important. Et vous savez, à Noël dernier, il s'est passé quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je vais vous le dire. Nous avions sur le budget du CCAS un petit reliquat. Et ce reliquat, pas très important, mais 3000 euros, nous l'avons confié au Resto du Cœur. Mais nous avons confié ce reliquat en bons alimentaires. Et ce qui m'a le plus frappé et ému, je dois le dire, ce sont les témoignages que nous avons eus en retour. C'est-à-dire cette somme qui a été distribuée à des personnes qui ont sans doute et très certainement des soucis de fin de mois. Eh bien, sur les témoignages, nous avons eu ce type de, disons, d'indication, à savoir que pour certains, ils ont pu inviter la famille pour les fêtes. Donc, quand on est là, quand on en est là, on est bien sûr content, mais aussi on se dit que, mais dans quel monde on vit ?
Ça, c'est sûr. Et puis, quand on connaît la situation des Restos du Cœur aujourd'hui en France, c'est quand même une super motivation d'avoir ce retour. Justement, parlant de motivation, est-ce qu'elle est restée intacte, votre motivation ?
Ah, mais complètement, mais un peu de fatigue quand même. Hein. Voilà, parce que comme tout un chacun, on ne rajeunit pas. Mais oui, la motivation. Et puis, on a encore le projet phare qui a été d'ailleurs plébiscité par la population dans le cadre de la consultation que nous avions faite, les écoles. Et là, ça y est, c'est un projet qui a commencé, alors pas démarré avec les pelles et les pioches, mais l'équipe de maîtrise d'œuvre a été retenue. Et je pense que nous aurons vraiment une structure qui accueillera les enfants comme il se doit pour dans les années futures. Et ce qui, pour nous aussi, est important parce qu'on se met dans une perspective d'évolution et non pas de régression.
On l'avait mis un peu plus tard l'école, mais allons-y maintenant, parlons. Donc, quand vont commencer les travaux et comment ça va se passer au niveau de l'organisation et de l'accueil des enfants ?
Alors écoutez, en ce qui concerne pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire parce que nous avons été assistés par un assistant à maître d'ouvrage qui lui avait envisagé un déroulement qui visiblement n'est pas celui de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc c'est l'équipe de maîtrise d'œuvre qui va nous proposer un cheminement et les travaux commenceront en 2025. Ça, c'est à peu près clair. Et ce qui nous a plu dans les propositions qui ne sont encore pas définitives, c'est que, en fait, on aura des Algeco à l'intérieur de la cour pour éviter qu'il y ait, disons, une obligation d'envoyer les gamins un peu trop loin de la base. Donc ça peut être une très très bonne chose et je pense que les travaux débuteront donc en 2025 et ils se termineront certainement au moment de la rentrée 2026, mais avec toujours, vous le savez très bien, les aléas de chantier qui ne sont pas prévisibles.
Il avait été aussi un moment question peut-être d'utiliser la salle des fêtes.
Alors absolument, mais cela, si nous utilisons la salle des fêtes, ce sera surtout, alors pour vous savez, au niveau de l'école, il y a énormément de documents, il y a beaucoup de matériel qui devra être entreposé. Et nous avions envisagé la salle des fêtes dans la mesure où, comme l'avait proposé notre assistant à maître d'ouvrage, nous aurions commencé par l'école maternelle. Mais si, justement, ce qui nous est maintenant proposé fait qu'on ne commence pas par l'école maternelle, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de les délocaliser. Les petits-petits, ils resteront là où ils sont pendant une grande partie du chantier. Donc, on n'en aura peut-être pas besoin. Mais ça, effectivement, quand on aura une vision claire, bien sûr, on informera tout le monde, et en particulier les associations, parce que la salle des fêtes, c'est quand même un lieu qui est beaucoup, beaucoup demandé. Et si on doit l'emboliser, bien sûr, tout le monde sera prévu bien en amont.
On va aborder pas mal de sujets aujourd'hui en ce qui concerne Florac, évidemment. Commençons par le début du 11 avril prochain, si je ne m'abuse, c'est le vote de l'orientation budgétaire pour la ville, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, c'est le vote du budget primitif, oui, oui.
Comment se porte Florac?
Bien écoutez, comme beaucoup de PCI, de communes, à la fois bien en fonctionnement, c'est-à-dire que nous arrivons à faire, un exercice tout à fait serein. Néanmoins, le problème que nous avons et qui n'est pas récurrent à Florac, c'est que les investissements que nous avons réalisés pèsent dans la mesure où les subventions que nous attendons sur un certain nombre de dossiers, par exemple, je prends l'exemple de l'Ilodide, nous n'avons pas encore perçu toutes les subventions. Et à chaque fois, eh bien, il faut faire un emprunt, ou une ligne de trésorerie, et ça pèse beaucoup, bien sûr, sur les finances. Et ce qui est effectivement très, très regrettable, parce que quand on fait un emprunt ou une ligne de trésorerie, on engraisse les banques.
Lors du dernier conseil municipal, justement, il a été rappelé le contexte difficile et incertain dans lequel on évolue. Donc, bien sûr, le contexte international, le contexte géopolitique, l'inflation aussi qui a eu des effets. Et puis, des incertitudes sur le montant des dotations de l'État, oui, des bases fiscales. Là-dessus, depuis, est-ce qu'il y a du nouveau ?
Pas tout à fait. Alors, ce que l'on sait, là où on a pu travailler, c'est sur les bases fiscales. Puisque l'an dernier, nous étions à 7,2, on est à 3,9. Donc, on a pu faire des calculs. Mais sur la dotation elle-même, en tout cas hier, on n'avait pas encore le montant. Alors, il est vrai que grâce à l'Association des maires de France, ils ont des logiciels qui permettent d'anticiper un certain nombre et de faire des calculs. Donc, on a une idée, mais qui n'est pas absolument certaine. Donc, je dirais qu'il y a des incertitudes, mais il y a aussi des postes qui nous rassurent. Par exemple, on s'est rendu compte qu'au niveau du coût de l'énergie, et particulièrement l'électricité, où il y a eu, vous le savez tous, des augmentations importantes de tarifs, eh bien pour nous, ça a été quand même une somme moindre que ce que nous avions imaginé, et c'est certainement dû à l'extinction la nuit, et puis un certain nombre aussi, si je parle de l'éclairage public, les améliorations qui ont été apportées, y compris par les LED qui remplacent des énergivores au niveau des consommations. Donc ça, c'était plutôt un bon, une bonne nouvelle. Et puis, nous sommes aussi très fiers et très contents d'être toujours... Alors maintenant, on ne parle plus de la dotation, on parle des aménités. Donc, c'est tout ce qui concerne... Enfin, c'est un terme que je maîtrise très mal, je dois le dire. Mais voilà, donc, c'est la biodiversité et qui nous sommes toujours éligibles, bien sûr. Et ce qui, moi, me satisfait particulièrement, c'est que cette dotation, elle sert vraiment à tout ce qui contribue à l'amélioration de l'environnement dans notre commune.
On va parler d'un point dont vous nous disiez l'année dernière qu'il a toujours été compliqué, c'est la question du logement. Alors, positif d'abord, hein, c'est le projet de rénovation énergétique d'une douzaine de logements communaux.
Oui, effectivement. Alors, ça va améliorer. Vous savez, la commune de Florac n'a pas un grand parc immobilier. Nous avons 12 logements en tout, dont 5 qui sont au même endroit, c'est-à-dire ce qu'on appelle la maison de Jeanne en face de l'ancien tribunal. Mmh. Et oui, nous avons mené. Mais c'est pas. On va améliorer la qualité de vie dans ces logements. Même si certains, enfin particulièrement la maison de Jeanne, ce n'est pas une passoire thermique, loin s'en faut. Mais le problème, c'est le manque de logement, le manque. Et là, vous savez, dans le cadre du PLU, je l'avais peut-être dit déjà, nous avons fait le constat que sur Florac, nous avons 35% de résidences secondaires. Ça veut dire 35% de parcs locatifs, enfin... de parc d'habitation qui ne peut pas être utilisé. Et on est toujours très ennuyé lorsque nous avons des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles viennent s'installer à Florac suite à des changements d'affectation professionnelle et pour lesquelles on a très très peu de réponses. Alors il y a aussi le projet de l'île Opuel qui a subi aussi quelques retards pour une raison très simple, c'est que cette opération, elle est identique à l'île Audide, c'est-à-dire nous sommes partenaires avec Lozère Habitation, donc c'est pour développer du logement social. Et les conditions qui ont affecté le logement social, nationalement, hein, pas que Florac, ont montré que sur le projet d'origine, c'est-à-dire 7 logements, c'était difficile pour Lozère Habitation de pouvoir avoir une prestation telle celle que nous avons connue sur l'île Audide. Donc, nous sommes partis sur un projet un peu différent, qui sera une augmentation de la capacité. On sera aux alentours de 10, voire 11 logements. Et avec, l'île Opuel, il donne pour partie sur l'esplanade, mais l'essentiel donne à l'arrière. Et sur l'arrière, nous aurons une construction nouvelle qui sera reliée avec la partie qui, elle, donne sur l'esplanade. Et ça nous permettra d'augmenter le potentiel, d'offre de logements.
Ça, c'est dans quoi ? Dans les 2-3 ans ?
Peut-être 2 ans, parce que, si vous voulez, en ce qui concerne pour la ville de Florac, nous allons continuer à travailler comme pour l'île Audide, c'est-à-dire avec l'Agence nationale de résorption d'habitat, dans le cadre d'une opération RHI. Mmh. Mais c'est une opération qui sera plus limitée que prévu. Donc oui, on peut imaginer dans 2 ans.
François.
À Florac, il y a le collectif logement aussi qui s'est créé. Donc c'est une initiative de citoyens, en fait, qui souhaitent donc créer une foncière pour pouvoir, du coup, avoir des fonds, essayer de racheter des biens immobiliers, dans l'objectif aussi, donc, de faire en sorte qu'il y ait plus de logements accessibles sur la commune de Florac. Comment cette initiative est perçue par la municipalité ? Comment ça s'articule ?
C'est très, très positif. Moi, je dis que toutes les initiatives citoyennes, elles sont bonnes à prendre, et celle-là en particulier. D'ailleurs, on leur a signalé un ou deux lieux où peut-être ils pourraient tourner leur regard. Et je pense que c'est une très, très bonne chose. Alors, on est souvent en relation avec eux. On leur a signalé, un immeuble qui est un peu important, enfin, en taille. Et ils aimeraient commencer par quelque chose de plus petit, ouais. Donc ce qu'on peut comprendre. Mais je pense que c'est excellent, enfin, ce genre d'initiative. Le problème, c'est que c'est un peu long, quoi. Voilà, il faut du temps, voilà.
En tout cas, il y a tout un travail aussi, j'imagine, de prise de contact, de sensibilisation auprès de propriétaires.
Alors ça, oui, enfin... il y a la prise de contact auprès des propriétaires, effectivement, et puis il y a les propriétaires qui se trouvent dans l'obligation quand même d'arriver un certain temps, à un moment où il faut qu'ils se décident. Hein. Alors, des immeubles qui sont en difficulté, il y en a un certain nombre. Soit c'est, il n'y a plus d'héritier ou quasiment, et là c'est très difficile. Ou alors, celui auquel je pense, qui est un grand immeuble, ça y est, là visiblement il va pouvoir être mis sur le marché, dans les mois qui viennent, enfin on l'espère.
Et si le collectif logement vous intéresse, auditeurs, auditrices, on avait reçu Stéphane qui était venu nous en parler dans l'émission 1, 2, 3, climat. J'ai lu aussi qu'il y avait un projet d'autoconsommation collective d'énergie renouvelable de Florac et qu'en ce moment vous allez être dans la collecte de données, c'est bien ça ?
Oui, l'autoconsommation collective, alors ça c'était, c'est pas tout à fait, disons que le problème de l'autoconsommation collective, c'est effectivement d'avoir la capacité dans des lieux qui sont, il faut cibler les lieux, hein, les immeubles, c'est vrai que c'est une démarche qui nous paraît intéressante. Par rapport d'une part aux locataires, mais aussi par rapport aussi au type de chauffage et de consommation à la fois vertueuse mais collective. Donc c'est ça qui est important. Alors on essaie aussi de nous pour ce qui nous concerne, on n'a pas un parc immobilier très très important, hein, mais sur les équipements publics. On essaie effectivement d'aller dans ce sens. Donc, il y a des études qui sont menées sur, par exemple, la salle des fêtes, qui est en cours d'étude. Et puis, bien sûr, pour les écoles, il faudrait qu'on soit aussi très vertueux dans le cadre de la réhabilitation des écoles. Donc, oui, ça participe, disons, d'un grand mouvement qui est lancé et qui, à mon avis, ne peut que se développer, hein, c'est évident.
C'est l'avenir, c'est sûr. François ?
Oui, et puis l'idée, c'est aussi de mobiliser du parc privé.
Exactement. Alors, le parc privé, c'est vrai que le problème, c'est pas simple. Il faut le dire, hein. Il faut dire que c'est pas simple parce que il y a deux visions au niveau du parc privé. Une vision un peu ancienne qui est de dire que on est dans le cadre de locations qui sont temporaires et qui ne sont, pas sur toute l'année. Donc c'est de la location, de rapport, hein, comme on peut dire. Alors ça, effectivement, là, on n'a pas beaucoup de moyens d'intervention. Hein. C'est à chacun. Mais c'est vrai aussi que sur ce qui est l'habitat collectif, sur Florac, il y a le parc collectif géré par Lozère Habitation, etc. Bon, ça, c'est très bien. Mais pour le reste, il y a beaucoup de petits, logements sur lesquels il y aurait certainement beaucoup à faire, notamment au niveau des économies d'énergie. Mais là, je ne pense pas qu'au niveau de la commune, on ait... Je ne parle pas de moyens financiers, mais c'est quand même une longue, démarche de convaincre qu'il faut, on peut améliorer. Et puis, quelquefois, les améliorations, elles peuvent coûter très cher aussi. Donc, tout dépend qui est propriétaire de l'immeuble. On n'a pas que des gens qui ont beaucoup, beaucoup de moyens. Donc, c'est pas simple.
C'est sûr. Évidemment, c'est en plein dans l'actualité, puisque ça y est, la phase test pour l'avenue Jean Monestier a commencé lundi, me semble-t-il. Hein, c'était le 25.
C'est pas tout à fait la phase. Les travaux ont commencé, c'est-à-dire sur l'avenue. Le principe qui a été retenu, compte tenu aussi de la consultation qui a été faite, c'est on part du trottoir, d'accord ? On part du piéton. Disons que pour nous, notre hiérarchie de valeurs. C'est d'abord le piéton, ensuite le cycliste, disons le cycliste, enfin la mobilité est douce, et puis en dernier la voiture. Et on a commencé par la bande piéton, c'est-à-dire le cheminement piéton, sur une base qui est, disons, très claire. Et une fois que, compte tenu du résultat qu'il y a eu du vote, ça veut dire que sur l'avenue Monestier, il y aura cette bande de circulation piétonne, et puis il y a les deux sens qui sont maintenus.
On enlève les places de parking.
Voilà, il n'y a plus de parking possible. Alors, on a essayé d'avoir un terrain qui aurait pu convenir, disons, à ceux qui habitent sur cette avenue et qui n'ont pas de garage ou qui n'ont pas d'emplacement. Pour l'instant, ce n'est pas évident. Donc, il va falloir que tous ceux qui sont dans ce cas, c'est-à-dire qui sont domiciliés sur l'avenue, qui n'ont pas de garage, mais qui ont un véhicule, trouvent effectivement un stationnement, sachant que, Florac, c'est quand même pas une superficie, je parle par rapport au centre-ville, il y a quand même des parkings qui ne sont pas très loin. Et ça veut dire peut-être un petit peu plus de marche. Mais on va essayer aussi de voir après comment on organise avec peut-être des chicanes pour permettre aux personnes de faire un arrêt. Par exemple, je pense aux personnes qui viennent à domicile pour faire des soins. Enfin,
les arrêts d'urgence.
Des arrêts d'urgence pour permettre... Ou des gens qui doivent décharger leur courses. Donc ça, on va voir comment ça s'organise. Mais la priorité, effectivement, c'est de faire la bande piétonne. Et après, les deux bandes... hormis ceux qui donnent sur la rue, parce que vous l'avez vu, enfin, vous le savez comme moi, il y a... lorsque nous allons faire nord-sud, c'est du côté, gauche qu'il y aura la bande piétonne, de l'autre côté pas. Et ce qu'il va falloir, là où il va falloir être vigilant, c'est sur les sorties d'immeubles qui donnent sur la rue. Donc là, il y en a quelques-uns, et ceux-là, il va falloir avoir justement cette option de sécuriser la sortie. Quelqu'un qui sort de chez lui, il ne faut pas qu'il se trouve... Mais apparemment, ce que j'entends, puisque là, c'est en cours d'aménagement, la distance sera suffisante pour qu'il n'y ait pas de personnes piétonnes en danger. Le problème aussi, c'est la taille des véhicules. C'est que dans cette avenue, quand on voit la taille de véhicules, je ne parle même pas d'utilitaires, mais disons, on a bien vu que ça s'est... Alors c'est vrai qu'il y a peut-être des endroits où pour les piétons, il faudra être vigilant, mais là aussi, au sol, il y aura ce qu'il faut, notamment devant les sorties ou entrées d'immeubles.
François.
En termes de temporalité, du coup, les aménagements sont prévus pour être terminés
à la fin du mois et début au plus tard. Là, on est presque effectivement le mois est quasiment achevé et au plus tard, au 15 du mois suivant, ça devrait être. Alors, il y aura dans un premier temps, c'est un peu une expérimentation.
Oui,
hein,
tout à fait. Ouais.
Pour, on ne va pas faire du très... Sauf ce qui est... D'ailleurs, vous l'avez vu, les barrières pour les piétons, ça, elles sont installées. Elles ne changeront pas. Elles seront là, puisque pour nous, celui qu'on doit préserver au maximum, c'est le piéton. Et c'est lui qui a le plus de droits. Les autres, c'est un droit, je dirais, un peu moindre. Donc, pour les piétons, ça va être achevé. Et après, on aura, cet aménagement sur le double circuit, qui est, pour certains, qui est une bonne chose, finalement. Pour d'autres, c'est une catastrophe. Donc, l'avenir le dira.
La phase de test. Donc, elle va être effective jusqu'à fin août, comme
oui,
c'était prévu
oui,
à l'origine.
Oui, parce qu'il y a deux périodes quand même, hein, vous le savez tous. Actuellement, il n'y a pas grand monde, on arrive à se garer très facilement, y compris autour de l'esplanade. En revanche, on peut penser qu'à partir de juin, et alors je ne parle même pas de juillet-août, ça va être différent. Mais pour nous, l'important, c'est la sécurité, bien évidemment. Et puis, c'est aussi... eh ben, développer les mobilités douces. Voilà. Il faut qu'on conçoive que dans une petite ville comme la nôtre, il y a quand même des parkings qui sont distribués de façon assez importante alentour. Alors, je ne parle pas des personnes à mobilité réduite, bien évidemment, mais tout un chacun peut faire 100 mètres de plus sans que ça mette en péril quoi que ce soit. Donc, il faut qu'on arrive à cela. Il faut qu'on développe d'abord la marche. Ça fait énormément de bien pour la santé.
Donc, c'est une expérimentation. Donc, il y aura un bilan aussi qui sera fait à la fin. Comment vous envisagez ce bilan ? Alors, comme il y a eu une participation pour choisir le scénario, c'est une expérimentation, donc ce n'est pas forcément définitif. Comment vous envisagez cette étape-là ?
Pour nous, on va effectivement voir comment les choses se déroulent. Le bilan, il est justement, il y a des indicateurs qui sont en train d'être actuellement définis par un groupe de travail, puisqu'il y a un groupe de travail qui s'est mis en place. Et on fera le bilan à partir d'éléments assez simples. Hein. On va faire du comptage aussi. On va voir au niveau des parkings, alentour, qu'est-ce qui doit être amélioré. Alors, pour ceux qui imaginent qu'il y aura un retour en arrière, je crois qu'ils vont être déçus. De toute façon, il n'y a pas de retour en arrière, puisque de toute façon, là où il y aurait eu un grand changement, le scénario n'a pas été retenu, puisqu'il y a toujours les deux sens. Donc, dans la mesure où il y a les deux sens de circulation, il n'y a pas de... Voilà, c'est le scénario qui a été retenu. Alors, est-ce qu'on pourrait aller à une autre hypothèse ? Je ne le crois pas, parce que le problème, quand même, c'est qu'il y a l'esplanade. Et c'est vrai que si on n'avait qu'un seul sens, pour l'esplanade, ça poserait aussi problème. Et une étude avait été faite et qui montrait que, vous le savez très bien, à l'été, l'esplanade, il y a toute une voie qui est complètement piétonne. Ouais. Et si on avait procédé autrement, cette voie piétonne aurait été forcément supprimée. Donc, il n'y a pas de solution idéale. Il y a simplement une rigueur. Et il faut aussi que, quand on est piéton, on pense qu'on peut être automobiliste, mais surtout, quand on est automobiliste, il faut bien qu'on pense qu'on est piéton. Et que les enfants, les piétons, ils ont un droit prioritaire sur l'automobile. Et ça, c'est un peu un changement de paradigme. Mais bon, peu à peu, les choses arriveront. Et puis, on se rend bien compte que si des parents peuvent laisser tranquillement leurs enfants aller à l'école à pied, moi, je dirais que c'est quand même un grand gain qu'on aura fait pour éviter, surtout que l'avenue Monestier, il faut voir aussi cette avenue. Elle peut apparaître grande, mais elle est toute petite. Et par rapport à la taille des véhicules qui ne cessent, je ne parle même pas des utilitaires, on se rend bien compte que c'est tout petit et qu'il faut partager. Et puis, priorité aux piétons.
Une précision sur le groupe de travail. Il est composé d'élus et de citoyens ?
Alors, pour l'instant,
c'est juste des élus qui sont...
Il n'y a pas que des élus. Il y a des techniciens aussi qui ont été intégrés. Notamment, il y en a du PETR. Il y a la personne qui s'occupe beaucoup des mobilités au PETR. Donc, pour l'instant, on est en train de déterminer... Enfin, ils sont... Moi, je ne participe pas à ce groupe, mais ils sont en train de déterminer des critères d'évaluation, parce que c'est ça qui est important. Ça va être de voir comment double sens avec un trottoir digne de ce nom, disons une bande de piétonnisation digne de ce nom, va pouvoir coexister de façon paisible et tranquille. Et puis, moi, je dis que si les parents, parce qu'il n'aura échappé à personne, que si on part, de la Bessède et qu'on arrive à l'école, si les parents peuvent laisser leurs enfants aller tranquillement à pied à l'école ou au collège, je pense qu'on aura vraiment gagné quelque chose.
On a parlé de consultation citoyenne, de démocratie participative qui vous tenait à cœur depuis le début de votre mandat. Vous aviez mis les commissions en place. Où est-ce qu'elles en sont ? Est-ce que ça marche encore ? Finalement, quelle analyse vous avez de l'engagement citoyen aujourd'hui à Florac ?
Alors, c'est comme dans beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enthousiasme, et puis après, l'enthousiasme, il s'étiole un peu. On va le dire comme ça. Moi, je ne porte aucun jugement de valeur, simplement, c'est un constat. Alors là, par exemple, c'est vrai que c'est la deuxième année du budget participatif. Et la première année, nous avions donc constitué un groupe à moitié élu, à moitié citoyen. Et là, puisqu'on a relancé le budget participatif, on s'est rendu compte que le groupe citoyen, il avait beaucoup, beaucoup diminué. Donc, on a fait appel à candidature. Mais bon, finalement, voilà, il y a... Alors, moi, je pense que c'est comme tout, hein. On s'essouffle, on pense à autre chose. Mais il faut solliciter. Et quand on sollicite, on finit par trouver... Et on arrive justement à avoir des citoyens qui s'engagent. Alors peut-être pas pour des engagements très très longs, mais là, on va faire cette réunion puisque le budget participatif, nous avons eu les réponses. Nous avons 5 ou 6 propositions. Donc là, très très prochainement, le jury va se réunir. Bon, certains n'avaient pas souhaité continuer, d'autres viennent. Bon, ben voilà, c'est la citoyenneté à l'épreuve du temps.
C'est sûr. Il est encore temps de s'inscrire pour le budget participatif. Je crois que c'est mi-avril.
Ah non, c'est fini.
C'est fini.
C'est fini.
Ah, c'est mi-avril que c'est décidé. C'est ça.
Les réponses, c'était là, c'est terminé. Donc, la date limite de dépôt des dossiers pour. Et ça y est, c'est fini.
Bientôt la réponse alors, François.
Oui, puisqu'on parle de consultation citoyenne, il y a aussi une autre démarche qui a été engagée là depuis plus d'un an, c'est par rapport au PLU, le plan local d'urbanisme. Donc moi j'aimerais bien savoir un petit peu où ça en est aujourd'hui, parce que c'est une étape, la révision du PLU qui est longue, et il y a aussi une phase normalement de consultation citoyenne. Donc, où est-ce qu'on en est dans cette démarche aujourd'hui ?
Alors, la consultation citoyenne, elle va débuter, pour l'instant, ce qui s'est passé, ça a été par thématique. Il y a 15 jours, nous avons fait sur ce qu'on appelle les dents creuses. C'est-à-dire que la démarche fondamentale, hein, c'est de maintenir le tissu urbain, densifier le tissu urbain, et compte tenu de la loi ZAN, nous...
Sur le zéro artificialisation
nette des sols. Nous essayons d'économiser au maximum les terres disponibles. Donc l'idée, c'est de densifier le tissu urbain, et il y a ce qu'on appelle les dents creuses. Donc, nous avons fait une visite, j'étais assez satisfaite, nous étions 13 élus, élus municipaux, donc, et nous sommes allés sur le terrain avec le consultant, celui qui suit cette révision du PLU, et nous sommes allés voir toutes ces dents creuses avec des propositions. Et en fait, ce qui s'avère, c'est que on s'est fixé un objectif. On s'est fixé un objectif. Actuellement, on est à 2000, disons, un tout petit peu moins de 2100 habitants. D'accord ? L'objectif, c'est 2300. Bon. Est-ce raisonnable, pas raisonnable ? L'avenir le dira. Mais par rapport à cet objectif, il faut aussi un peu densifier, bien évidemment. Et la densification de l'habitat, nous, on le situe dans ce qu'on appelle les dents creuses. C'est-à-dire, et je parle même pas de... Alors, il y a... tout à l'heure, on évoquait, par exemple, cet immeuble en cœur de ville, là, qui pourrait nous apporter peut-être une dizaine de logements. Donc ça, c'est important. Mais en dehors de ça, c'est voir les dents creuses et comment les améliorer ou comment les... non pas bitumer, hein, pas du tout, mais comment y développer un habitat qui corresponde aux besoins. Et là, ça a été très, très intéressant de faire ce tour et qui nous a montré qu'effectivement, on a des possibilités de densifier, mais dans des proportions raisonnables. Et bien évidemment, on ne va pas faire une tour dans Florac. Je l'ai dit, pourquoi pas, hein. Ça peut être très beau, ça peut être... Bon. Donc ça, on en est là de la démarche. Voir comment Et puis il y a des zones, on a eu aussi une réunion avec les professionnels qui est aussi importante. Alors il y a quand même, d'ailleurs quelqu'un nous a fait remarquer, c'était intéressant, c'est que finalement Florac s'est développé sur le nord. Hein, toute la zone, elle est au nord, et sur le sud, il n'y a rien. Alors est-ce qu'on peut, disons, avoir un développement aussi, pas aussi important que celui du Nord. Bon, la zone artisanale, elle est ce qu'elle est. Alors, c'est possible, mais on est sur des terrains privés, donc avec, disons, il faut avoir... mais le PLU, l'intérêt, c'est que même si on n'est pas propriétaire, on détermine des zones avec des destinations. Et ces destinations, elles s'imposeront aux propriétaires. Donc, alors là, on se rend compte que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir sur donc le sud, peut-être un développement, mais pour l'instant, ce n'est pas évident, parce qu'il y a les problèmes d'accès, et on pourrait avoir un peu plus de logements, peut-être, mais guère plus. Et puis, il nous faut aussi des terrains de sport encore, sans doute. Donc, voilà. Alors, sur on est actuellement, la phase où nous en sommes, sur le PLU, il y aura bien sûr les réunions publiques prochaines, ultérieures. Mais pour l'instant, on en est vraiment à une vision possible du développement de Florac. Sachant que la zone artisanale, elle est comme elle est, voilà, elle existe, elle est comme ça. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose. Mais après, ça va être densifier autant que possible le cœur de ville, c'est-à-dire les dents creuses, ce qu'on appelle les dents creuses. Et puis, alors, sur des terrains un petit peu plus vastes, peut-être avoir des petits collectifs, mais des petits collectifs qui soient effectivement floracoise. Je vais dire floracoise, on ne va pas faire une grande tour, cela dit, pourquoi pas, hein, si Beaufil venait nous faire une tour magnifique, pourquoi pas, mais c'est bon, c'est pas dans les projets.
Transition toute trouvée, depuis que je travaille sur cette antenne, il y a cette expression qui revient souvent, la dynamisation ou la revitalisation des centres-bourgs. Déjà, en ce qui concerne les commerces, c'est quand même une bonne nouvelle, puisqu'il n'y a eu aucune fermeture l'année dernière.
Oui, tout à fait, je pense que Florac... à cette particularité d'être... c'est une toute petite ville, hein, 2000 habitants, c'est petit, mais c'est sous-préfecture. Il y a beaucoup de services, même si on trouve que ce serait bien qu'il y en ait plus. Donc, ça permet... Et puis, on a quand même quelques pépites. Hein. Il y a Supagro, enfin, ça ne s'appelle plus comme ça, mais bon.
L'Institut Agro.
Voilà, l'Institut Agro.
Je crois que tout le monde comprend.
Voilà. il y a le parc national, quand même. Il y a des administrations... qui sont là, donc c'est vrai que c'est une toute petite collectivité urbaine, mais qui effectivement a un développement à hauteur, alors pour en revenir au PLU, nous on se projette à 2200-2300, est-ce qu'on est très optimiste, est-ce qu'on est fou, je ne sais pas, l'avenir le dira, mais c'est vrai qu'on peut imaginer quand même un développement de notre commune. Après, comment effectivement il y a, eh ben, il faut qu'il y ait de l'emploi. Hein. Alors actuellement quand même, sur l'emploi, on a plus de demandes que de personnes qui répondent. Il faut le savoir. On est quand même dans une situation, par rapport à d'autres, qui est plutôt favorable à cet égard. Mais il faut faire venir, et là, on revient à un autre problème que vous avez évoqué, c'est-à-dire que ceux qui viennent, où les loge-t-on ? D'accord ? Là, un exemple. Nous allons avoir, à partir, nous sommes du 1er avril, je crois, du 2 avril, le nouveau directeur du parc national des Cévennes. Bon, ben, il faut qu'il trouve un logement. Alors, il a trouvé quelque chose, mais en attendant. Donc, voilà, c'est aussi un des aspects sur lesquels il faut constater que l'offre de logement, elle est quand même pas tout à fait à hauteur. Sans parler, il y a encore des passoires thermiques qui existent, qui sont toujours louées. Enfin bon, ça c'est le problème de l'habitat sur la commune.
On comprend que c'est vraiment le problème, François.
Oui, ces résultats aussi sont liés quand même à l'engagement des collectivités, parce qu'il y a eu quand même le recrutement de chargés de mission, que ce soit sur l'aménagement des centres-bourgs, le manager de commerce aussi. Donc ça, voilà, ça témoigne quand même d'une volonté de la collectivité de faire en sorte que les commerces soient maintenus. Est-ce que ce bon résultat peut être aussi imputé à cet engagement ?
Oh bien, écoutez, quand on a été élu Petite Ville de Demain, c'est vrai que pour nous, ça a été on l'a ressenti comme quelque chose de naturel. Parce qu'on est un centre-bourg, c'est vrai. On est sous-préfecture. Même si c'est une des plus petites sous-préfectures de France, on est sous-préfecture avec un certain nombre de services. Moi, je le vois aussi à travers ce qui se passe en mairie par rapport au titre... carte d'identité, passeport, etc. Mais c'est incroyable. Là, on se rend compte que effectivement, on est centralité. Hein. Mmh. Alors, je parle même pas de ceux qui viennent faire du tourisme administratif parce qu'ici, ça va plus vite que dans certaines grandes villes. Donc, c'est sûr qu'on est une petite centralité. Et dans ce cadre-là, c'est sûr que on a des obligations. Qui pèse sur nous. Et quelquefois, il y a des éléments sur lesquels on n'est pas tout à fait... On ne peut pas répondre aux demandes. Et un élément qui est important, enfin, qu'on voit, c'est effectivement le logement. Le logement, il est ce qu'il est. Avec, en plus, dans le cadre, on parlait du PLU, le ZAN, etc., qui fait qu'il va falloir économiser les terres. Et pour nous, c'est très bien. Donc, vous voyez, je vous parlais d'un immeuble. Enfin, il y a un immeuble en cœur de ville. Bon, je pense qu'on peut le citer, Végalier. On pourrait avoir une dizaine de logements. Donc, c'est ça qu'on veut faire. C'est densifier le cœur de ville, mais ça ne correspond pas souvent aux recherches et aux demandes des personnes qui cherchent un logement. Parce que quand on vient dans un lieu, entre guillemets, un peu retiré comme le nôtre, eh ben, qu'est-ce qu'on veut ? On veut une maison, un jardin, éventuellement sa piscine. Donc, c'est ça la réalité. Donc, là aussi, il faut changer un peu de paradigme et de se dire, alors, si on n'a pas sa maison à soi, avec sa piscine à soi, eh ben, il faut développer le reste. C'est-à-dire que la ville, elle puisse offrir à ceux qui n'ont pas ça. Alors, la piscine, ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème, parce qu'on n'en a pas.
On est très centré sur Florac, mais cette question du logement, elle est valable sur tout le sud de Lozère, en tout cas.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a un travail qui est fait en commun avec les autres communes, au niveau de la communauté de communes, cette réflexion-là, est-ce qu'elle existe aussi ?
Non. Sur le logement, non. Je crois que chacun est dans soit sa carte communale, soit son PLU. Mais on n'a pas, à ma connaissance, on ne s'est pas projeté dans une vision, communautaire sur le développement des logements et de l'accueil de nouvelles populations.
D'accord.
Il nous reste quelques minutes, il y a deux bonnes nouvelles aussi hein, quand même, puisqu'il y a l'installation de Simon qui est maraîcher, qui s'est installé là il y a quelques semaines, à peine quelques temps. Comment ça s'est passé ? Il a répondu à un appel à projet.
Oui, voilà. Et il a été un peu très bien suivi par une élue que je salue particulièrement. Chère Claudie, qui lui a permis de s'installer donc vers Saliège et qui fait que je crois qu'on a trouvé la bonne personne pour justement permettre on tient beaucoup aussi à la production locale pour notre cantine tout simplement et de ce point de vue là je crois qu'on a fait d'ailleurs beaucoup d'efforts. Et là aussi, je tiens à saluer, Claudie Martin pour ce qu'elle fait pour attirer des nouveaux producteurs. Christian Rameau par rapport aux écoles et au fait de donner à nos enfants, une nourriture la plus saine possible. Donc, il va participer, ce nouveau jeune homme, pas si jeune que ça, mais quand même encore très jeune pour moi, eh bien, à l'approvisionnement en partie de la cantine scolaire, on est très très content.
Vous en aviez parlé il y a 3 ans maintenant, et objectif atteint. Et puis sur le même thème, presque, la gestion du centre d'accueil des Cévennes, qui a été reprise par Guillaume Collet et Charlène Camboulive, devient l'étape. Quel lien vous allez entretenir, la municipalité et ce lieu d'accueil?
Alors écoutez, nous on est ravis d'avoir eu cette, disons, le parcours du CAC qui se poursuit. Alors c'est toujours très agréable d'avoir des jeunes, surtout qu'au début on était un peu étonnés, mais finalement on a été un peu bluffés par leur réactivité. Et bien nous, c'est à eux de gérer. Hein. Ils devront s'engager aussi sur des réhabilitations du bâtiment. Mais je pense qu'ils sauront faire. Ils ont plein d'idées d'animation. Ça, c'est aussi très, très bien. Alors, moi, je ne peux leur souhaiter que vraiment bonne chance. D'ailleurs, nous sommes quoi ? Nous sommes mercredi, donc je crois que c'est vendredi qu'on va faire une petite inauguration avec eux. Et on est très très contents. C'est un jeune couple méritant et on est ravis.
Il nous reste quelques minutes. Un petit mot sur votre engagement, notamment sur les OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Vous avez soutenu entre autres Aziz dernièrement, pour qui heureusement ça se termine bien. Ce genre de combat, c'est important à mener. Ça vous tient à cœur encore?
Absolument, mais malgré mon âge... les combats de ma jeunesse, je continuerai, je pense, à les mener encore un certain temps.
On en fait partie aussi sur cette antenne de ces combats. Vous l'aurez compris, auditeurs, auditrices, les projets sont nombreux. D'ailleurs, Flore, est-ce qu'il y a des projets qui d'ici 2 ans pourront pas se faire, soit parce que c'est matériellement impossible, soit parce que c'est trop court, des choses que vous pourrez jamais mettre en place et que vous vous dites « Ah, ça j'aurais aimé, mais ça va pas être possible
». Oui, il y a certainement des choses sur lesquelles on n'aura pas le temps, mais les successeurs, enfin, le tout c'est de planter des graines. Et après, les graines, elles germent et puis elles se développent et puis le projet arrive. C'est vrai que j'aimerais que, par exemple, là où il y a que la bibliothèque et le foyer rural soit un lieu beaucoup encore bien mieux aménagé que ce qu'il est. On aimerait aussi que on puisse développer disons, un accueil plus important pour, je pense notamment à tout ce qui est artistique. Voilà, alors, oui, il y a des projets sur lesquels, mais je fais confiance toujours à l'avenir et aux jeunes générations. Donc, je n'ai aucun souci.
Il y avait eu aussi des études, par exemple, sur un projet de ressourcerie. Sur Florac, bon, ça ne se fait pas tout de suite, mais
non,
c'est
le projet de ressourcerie, ça, moi, on a quelques élus, il y en a un auquel je pense particulièrement, Robin, qui est très très investi, et j'espère qu'il continuera, parce que c'est eux l'avenir, hein, c'est pas moi, c'est eux l'avenir, et j'espère qu'il pourra. On est dans cette vision, l'étude a été faite, elle est très intéressante. Maintenant, il faut la mettre en œuvre. C'est beaucoup d'argent. Et puis, c'est aussi un partenariat. Il faut, dans ce genre d'affaires, il faut un partenariat, puisque localement, enfin, au niveau de la localisation, pardon, c'est proche de la déchetterie. Donc, il faut qu'il y ait un partenariat étroit, ce qui... peut-être sera possible. En tout cas, moi, je compte sur cette génération-là pour continuer ce genre de démarche. Et oui, ça me paraît très important.
S'appuyer sur les savoir-faire du Pétassou à Sainte-Croix et de la récup à Mende, c'est sûr que ce serait une bonne idée. Fin de mandat dans 2 ans, Flore. Est-ce que vous représenterez ?
Non.
Au moins, la réponse est très claire, nette et précise.
C'est très clair.
Mais voilà. Merci beaucoup, Flore, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, François.
Merci, merci à toi Ben.
Avec grand plaisir, à très bientôt sur cette antenne pour encore de beaux projets cette année. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Le temps pour moi de vous rappeler que c'est l'Assemblée Générale de Radio Barthas ce samedi à partir de 10h, c'est au foyer rural. Venez proposer vos idées autour d'un brunch. Radio Barthas, c'est votre radio. On a la chance d'avoir un média local et tous les jours on veut s'améliorer encore et encore. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On se retrouve lundi, oui c'est le 1er avril, oui c'est le lundi de Pâques, mais c'est pas une blague, c'est aussi Vue du Québec qui commence la semaine prochaine. On recevra donc Guillaume Sapin, directeur de la Nouvelle Dimension, pour en parler et on fera un plateau en direct jeudi prochain, en direct du festival. Restez bien sur Barthas, on n'y est pas trop mal. À très bientôt, ciao.